en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invité pour cette émission en habit vert est un éminent biologiste cellulaire. Dans les années 50, il compte pour amis et collègues Jacques Monod, François Jacob et André Lvoff. Il commencera ses recherches comme simple bénévole à l'Institut Pasteur, avant de devenir quelques années plus tard professeur puis directeur général de l'Institut Pasteur entre 1976 et 1981. Il occupera parallèlement et jusqu'en 1996 la chaire de biochimie cellulaire au Collège de France et officiera également comme conseiller auprès du Premier ministre sur les questions de recherche et de technologie à l'époque mitterrandienne. Notre invité n'est autre que François Gros. Professeur François Gros, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. J'ajoute à cette courte présentation que vous êtes membre de l'Académie des sciences, secrétaire perpétuel honoraire de cette Académie. Au cours de cette émission en habit vert, nous parlerons de votre voyage aux États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un voyage d'études de 18 mois qui changera votre vision de la recherche. Nous reviendrons sur votre rencontre avec le professeur Jacques Monod, avec qui vous travaillerez dans son laboratoire à l'Institut Pasteur, et de votre ascension croissante dans cet institut. Nous évoquerons bien naturellement vos recherches, nous en parlerons donc plus en détail, et nous parlerons enfin de vos activités scientifiques actuelles. Mais commençons, si vous le voulez bien, par remonter le temps et projetons-nous à Toulouse dans les années 40. Vous êtes parisien, mais la guerre et votre confession vous poussent jusqu'à Toulouse où vous entrez à la faculté. Et sur place, vous êtes logé dans une famille. Peut-être que vous nous en direz quelques mots sur cette famille qui semble être haute en couleurs. Et lors de votre inscription à la faculté, vous hésitez entre plusieurs filières et je crois que votre destinée est fixée à travers une longue file d'attente. Pourriez-vous nous redonner un petit peu le contexte de ce qui va être votre destinée pour les années qui vont suivre?
Mon Dieu, il me semble que vous avez très bien résumé tout ce que je pourrais dire. Mais en fait, je suis né dans une famille qu'on pourrait qualifier de bourgeoise. J'ai eu une enfance plutôt agréable. C'est une famille d'Israélites non pratiquants. Et j'insiste là-dessus parce que ça peut expliquer une partie de mon parcours. Je suis né entre les deux guerres, entre la guerre de 14 et la guerre de 40, d'une mère qui était une personne extrêmement vive, ouverte, pleine de fantaisie, et disons un peu moderne, si je puis dire, avant la lettre, et qui était très attentive à ses deux enfants, mon frère et moi, et d'un père qui avait fait toute la guerre de 14 et même un peu plus, puisqu'il s'était engagé volontaire pour pouvoir choisir son corps. Bon, donc il est resté presque 6 ans sous les drapeaux. Et bien entendu, toute mon enfance a été, si je puis dire, entourée de récits de cette nature.
Parce qu'il était aussi passionné d'histoire militaire, je crois.
Il était passionné d'histoire militaire. Et puis la guerre de 39-40 est arrivée. Inutile de vous dire que dans la situation où nous nous trouvions, j'ai très souvent dû échapper à un certain nombre de menaces qui pesaient à la fois sur le fait de mes problèmes confessionnels et en même temps le fait que j'appartenais à un mouvement qui essayait d'aider les personnes en difficulté à passer la frontière.
En Suisse et en Espagne.
Voilà, donc le mouvement a été découvert, il était en Corrèze, la milice cherchait à nous arrêter. J'ai passé donc le plus clair de mon temps à me cacher, à changer d'adresse, etc. Puis j'ai abouti à Toulouse où mon père m'a dit, j'étais très passionné de philosophie, j'avais fait un bac de philo, et mon père m'a dit, écoute, ça n'est pas un métier, on est en pleine guerre, il faudrait que tu deviennes au moins ingénieur agronome. Donc, inscris-toi à Toulouse, à une faculté des sciences au moins. Alors, je me suis rendu à Toulouse. Il faut dire que je suis assez myope et plutôt rêveur de nature. Et que ce qui n'arrangeait rien, c'est que les deux universités, celle de médecine et celle de sciences, sont exactement le portrait l'une de l'autre dans un miroir. Elles sont liées l'une à l'autre. Et comme je ne voyais pas très bien ce qui était inscrit, j'ai vu une queue qui faisait démesurée d'un côté. Je me suis dit, ça ne peut être que la médecine. Donc j'ai suivi la queue. Et puis je me suis aperçu de ma bévue au bout d'une heure ou deux. Et puis on m'a dit, écoute, décide-toi, etc. Il faut avancer. Donc j'ai demandé à quelques personnes autour de moi quels étaient les certificats dans lesquels je devais m'inscrire. Et puis j'ai dit pourquoi pas, et je me suis inscrit à ces mêmes certificats, à savoir la botanique et le SPCN. Et pendant quelques temps, j'étais séparé de mes parents. Je n'ai pas osé le dire à mon père, qui était un homme un peu, tout de même, un peu exigeant, si je puis dire, assez à cheval sur ce genre de choses. Et puis je pensais revenir le lendemain, mais le lendemain, la queue était énorme du côté de la médecine, donc j'avais dû me tromper le jour. Finalement, j'ai renoncé à m'inscrire à la médecine. C'est comme ça que je suis devenu, en fait, un scientifique.
Un scientifique. Vous vous êtes donc intéressé à la botanique, mais je crois que c'est au travers aussi les professeurs et certains maîtres que vous êtes passionné pour la botanique.
Oui, j'ai eu des professeurs de botanique tout à fait remarquables, d'autant plus que la botanique de la région post-pyrénéenne, puisqu'on est à Toulouse, était tout à fait extraordinaire. C'est là d'ailleurs au cours d'une séance d'herboristerie avec les professeurs que j'ai appris le débarquement. En voyant arriver au loin une personne qui levait les bras et qui disait « ça y est ». C'est un moment particulièrement émouvant, évidemment, pour des adolescents. Donc, après la guerre, j'ai dû me cacher à Toulouse, à Castres, dans beaucoup d'endroits. J'étais recherché par la milice. Même en première de liste, et j'ai dû changer de nom très souvent.
Permettez-moi une question. Vous aviez pu entrer à la faculté à Toulouse, puisqu'il me semble qu'on ne laissait pas entrer les personnes de confession israélite, comme ça, à la faculté.
J'ai pu y rentrer parce qu'il y avait des exceptions pour les enfants dont les pères avaient
une décoration.
Des décorations particulières. J'ai d'abord été refusé pendant un an. Ensuite, j'ai pu y rentrer grâce à mon père. Bon, inutile de vous dire que, rétrospectivement, tout ce que je pense de cette période vis-à-vis d'une certaine lâcheté d'un certain gouvernement de l'époque. Mais enfin, les choses étant ce qu'elles sont, je suis rentré et j'ai pu bénéficier tout de même de l'enseignement universitaire.
Mais vous avez dû vous cacher aussi à Toulouse. Je crois que vous n'avez pas pu suivre la totalité de votre cursus, en tout cas.
Il a été interrompu très, très souvent, oui. En effet, oui. Oui, oui. Mais c'est, franchement, par rapport à bien d'autres choses, c'est quelque chose de tout à fait bénin et secondaire.
La famille dans laquelle vous étiez était haute en couleur. Je me permets de le dire, puisque pour préparer cette émission, j'ai lu votre ouvrage qui s'intitule « Mémoire scientifique, un demi-siècle de biologie ». Il y a toute une partie qui est consacrée à cette période de votre histoire, une période dans laquelle d'ailleurs vous expliquez que vous pourriez y consacrer un livre entier. Alors, sans y consacrer une émission entière,
ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, je tenais à rester relativement discret, parce que les Allemands avaient commencé à occuper la ville, la milice sillonnait la ville également, il y avait des rafles un petit peu partout. Et je suis tombé dans une famille extrêmement sympathique, mais de gens extraordinairement bavards, des gens originaires de Marseille, et qui se vantaient précisément d'abriter chez eux des personnes tout à fait exceptionnelles, etc., etc., dont une grand-mère qui avait la langue bien pendue. J'ai retrouvé d'ailleurs tout à fait par hasard une autre personne qui était cachée, qui était le fils d'un ancien ambassadeur des États-Unis, qui a fini assez tragiquement d'ailleurs, et une autre personne de même, si je puis dire, confession que moi, et qui était bardée de croix pour essayer d'échapper à toute inquisition possible. Donc je ne peux pas dire que c'était l'endroit idéal pour se cacher, mais enfin, les choses se sont finalement pas trop mal passées.
Après la libération, vous remontez sur Paris, vous poursuivez vos études à la Sorbonne.
Oui, alors, en effet, j'ai complété ma licence que j'avais pu commencer à Toulouse les certificats qui me manquaient à la Sorbonne. Et puis, dès l'obtention de la licence, mais bon, les difficultés économiques étaient déjà assez grandes parce qu'on sortait de la guerre et ma famille m'a incité à essayer d'aller un peu plus loin par moi-même. J'ai travaillé quelque temps dans l'industrie, pas très longtemps. Je n'étais pas très doué, je dois dire.
Dans la pénicilline, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et puis, le monde industriel m'a dit, écoutez, vous êtes certainement, vous êtes peut-être un bon scientifique, mais vous n'êtes pas extrêmement doué pour les applications. Vous devriez peut-être vous inscrire dans une institution de recherche fondamentale. Et on m'a conseillé de me rendre à Pasteur. Donc j'ai été faire le tour de tous les chefs de service, à peu près une demi-douzaine, qui m'ont dit « Oui, c'est très bien, mais on est au complet, on ne peut pas vous prendre. Mais allez voir mon voisin, il sera certainement intéressé. » Finalement, j'ai abouti chez un personnage haut en couleur, qui était une véritable armoire à glace au plan physique, un joueur de rugby d'ailleurs, originaire du Cantal, je ne sais plus, en tout cas, ou du Massif central,
Auvergnat.
Je ne sais plus exactement. Un Auvergnat sympathique, figure très carrée, et avait un coffre extraordinaire, et qui m'a dit, ben écoutez, pourquoi pas, je vous prends, etc. Et j'ai commencé un peu comme technicien auprès d'un scientifique, et puis peu à peu, il m'a donné la possibilité de développer mes recherches dans le domaine, à l'époque, des mécanismes qui sont à l'origine de l'action des antibiotiques.
Les antibiotiques.
Qui venaient d'ailleurs d'être découverts. Ce qui m'a valu d'ailleurs en 1947 de participer au premier congrès de microbiologie internationale. Il faut dire que mon patron était très large d'idées, puisque j'avais commencé depuis seulement un an et demi, il m'envoyait là tout seul. À Copenhague pour présenter les travaux de l'équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trouvé face à face à Fleming, Chain et Florey, les trois prix Nobel. Donc j'étais un petit peu nerveux, je me suis cassé la figure sur l'estrade, j'ai balbutié, tout le monde a rigolé et finalement les gens ont dit « mais au fond, il est très sympa ce jeune Français ». Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma carrière dans le domaine microbiologique.
Et vous avez commencé votre carrière en étant bénévole. Je le disais au début de cette émission, quand vous entrez à l'Institut Pasteur, justement, il n'y a peut-être pas les moyens, juste après la guerre en plus, de pouvoir...
C'est-à-dire qu'au début, à cette époque, qui était donc, je ne sais plus, fin 46, 47, jusqu'à 48, 49... Il n'y avait pas vraiment de statut au CNRS. Hein. Donc, c'était une sorte de, comment dirais-je, d'agence qui donnait des bourses d'études. Et là, pendant un an ou deux, ou un peu plus, j'ai travaillé bénévolement, ce qui était assez normal. Et j'ai dû bénéficier des toutes premières possibilités ouvertes par la création d'un véritable statut d'emploi au CNRS comme stagiaire de recherche. Donc j'ai fait tous les échelons, au CNRS stagiaire, attaché, chargé, maître, directeur, etc.
Et puis vous partez aux États-Unis faire votre post-doc.
Oui.
Vous partez et vous allez découvrir, alors bien sûr les États-Unis, mais aussi le cadre climatique des États-Unis, suivant si vous êtes à Urbana ou dans l'Illinois ou encore
alors,
à
New York.
Alors
il faut dire, j'aurais dû commencer par là, que bon, après avoir travaillé quelques années et fait ma thèse chez Michel Macheboeuf, qui était donc mon premier patron, qui est mort malheureusement d'un cancer, j'ai été, si je puis dire, recueilli, entre guillemets, par Jacques Monod, alors jeune chef de laboratoire, et qui allait devenir peu à peu le successeur du chef de service, c'est-à-dire de Michel Macheboeuf. Donc Jacques Monod, bon, qui a bien voulu en quelque sorte s'occuper de moi, qui a vu peut-être qu'il y avait certains atomes crochus entre nous, m'a recommandé justement de faire un stage aux États-Unis. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai obtenu une bourse de la Fondation Rockefeller et que je me suis rendu pour la première partie de mon stage au fin fond de l'Illinois, comme on dit en anglais, au milieu des champs de maïs, où je suis arrivé par moins 27 degrés. Un peu dépaysé, refroidi, au milieu de gens qui n'avaient pas vu de Français pendant la guerre depuis longtemps et qui trouvaient que, on me demandait s'il était vrai que les Français mettaient toujours de l'alcool dans les biberons pour essayer de conforter les enfants, etc., etc. Enfin, qu'il y avait une vision très archaïque de la France. Mais enfin, toujours est-il que ça s'est bien passé. C'était une ville universitaire qui s'appelait Urbana, pourquoi pas. Et où là, j'ai pu apprendre vraiment la génétique au contact de maîtres américains comme Luria, futur prix Nobel, ou Sol Spiegelman, enfin des gens très, très connus à l'époque. Et puis, bon, j'ai démarré mes travaux sur l'effet de, disons, de substances, de synthèse qui miment en quelque sorte les agents naturels qui sont les acides nucléiques pour bloquer la formation des protéines. Ce qui m'a mis un tout petit peu sur le chemin des acides nucléiques d'ailleurs.
Et nous allons y venir dans quelques instants. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Suite de notre émission En habit vert en compagnie du professeur François Gros. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons revenir, nous étions aux États-Unis, vous y restez 18 mois et vous revenez en France où vous intégrez de nouveau le laboratoire du professeur Monod.
Alors je retrouve évidemment à mon retour des États-Unis un laboratoire qui avait complètement changé à la fois au plan de la structure même architecturale, si je puis dire logistique, des locaux que j'avais quittés du temps de M. Majbeuf, et également au niveau de la, si je puis dire, de l'organigramme, puisque dans l'intervalle, Jacques Monod, que j'avais contacté avant mon départ, était devenu le chef de service. Donc il m'a très généreusement accueilli dans son nouveau service. Et nous avons discuté du thème de recherche que j'allais pouvoir développer à mon retour. Je lui ai raconté ce que j'avais fait. Nous avions eu une correspondance assez suivie d'ailleurs pendant mon absence. Et je lui ai dit que j'avais envie de poursuivre sur les acides nucléiques qui m'ont toujours fasciné. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que justement, tout le monde parlait des protéines, des enzymes, mais à l'époque des protéines du sérum et tout ça. Je trouvais que c'était très bien, mais je trouvais que ces acides nucléiques très mystérieux devaient receler quelque chose. Et on les connaissait mal encore à l'époque. Et Monod m'a dit, tu crois que tu voudrais travailler là-dessus? On ne sait pas trop à quoi ça sert, enfin, on ne connaît pas très bien le mécanisme. Mais après tout, si tu veux, tu es libre, tu fais le choix qui est le tien. Et ça, c'était évidemment tout à fait merveilleux chez un grand patron de donner une liberté totale du choix des thèmes. Évidemment, j'avais affaire à un personnage tout à fait exceptionnel sur le plan de l'intelligence et de l'ouverture humaine même d'esprit. Là, donc, j'ai commencé à étudier un certain nombre de choses sur le blocage de la synthèse, de l'adaptation enzymatique, puisque c'est ce que Monod avait évidemment avait découvert dans ses propres travaux, issu de sa propre thèse. J'ai essayé de combiner en quelque sorte mon intérêt pour les acides nucléiques avec ce qu'il se faisait dans le laboratoire. Donc l'effet de ces agents de synthèse dont j'avais commencé l'étude à Urbana aux États-Unis sur la synthèse des enzymes étudiées par Jacques et ses collaborateurs. Et là, on a trouvé en effet des choses très intéressantes qui étaient difficilement explicables d'après les théories de l'époque, puisque on ne comprenait pas très bien comment, sur un plan même cinétique, si je puis dire, au niveau du temps, un outil comme un analogue de synthèse nucléique pouvait bloquer instantanément une synthèse d'enzymes. Car tout ce que l'on savait des molécules des bactéries était qu'elles étaient très stables. Donc comment expliquer l'incorporation d'une substance dans une molécule stable puisse avoir un effet immédiat? Et c'est là où je crois Monod a eu l'intuition, oui, qu'il devait exister quelque chose. On ne connaissait pas encore très bien, mais une sorte de messager. Bon.
Et il vous a mis là-dessus?
Oui, oui, oui. Bon, très bien, et il en a fait d'ailleurs un exposé avant mon deuxième départ pour les États-Unis, en disant, il doit exister quelque chose, on ne sait pas trop, etc. Et il en a discuté d'ailleurs avec François Jacob, dont j'ai fait évidemment la connaissance dans l'intervalle, et qui était un homme déjà extrêmement célèbre pour ses travaux dans le domaine de la régulation génétique, élève lui-même d'André Lvoff, que je connaissais bien, qui était un personnage remarquable, très impressionnant d'ailleurs. Je suis parti aux États-Unis à la suite d'une visite que Jim Watson avait faite à Paris, où il m'avait, nous avions discuté, il m'avait dit « Vous ne voulez pas travailler chez moi quelque temps ?» Je lui ai dit « Pourquoi pas ?» etc. Je suis parti là-bas pour travailler sur tout autre chose que le RNA messager. Et j'ai découvert, en fait, un peu par hasard, en utilisant des traceurs radioactifs, une substance dans les bactéries qui, par ses propriétés, nous semblait très bizarre. Et il m'est revenu qu'après tout, ça pouvait être justement le RNA messager dont on avait parlé à Paris et qui était discuté d'une façon très approfondie. Et là, nous avons fait quelques essais complémentaires qui nous ont donné l'assurance que c'était évidemment cela. Et la chose étonnante, c'est qu'à peu près à 4000 km de là, sur la côte ouest des États-Unis, puisque moi je me trouvais à Harvard, sur la côte est, François Jacob et les gens chez qui il faisait également un stage ont fait des découvertes tout à fait similaires. De sorte que nous avons décidé de publier en même temps.
De mettre en commun vos découvertes.
Nos publications. Voilà. Donc, ceci a été pour moi un si je puis dire, un point de départ important, parce que j'ai dû consacrer par la suite beaucoup de mes recherches sur cet aspect des propriétés du messager.
Oui, de cette découverte, en fait, ont découlé l'ensemble de vos recherches par la suite. Donc ça date de 1961, et ensuite vous travaillez sur la lecture des messagers par les ribosomes.
Oui, voilà, parce que, bien sûr, c'est les gènes en quelque sorte, les messagers, c'est important parce que c'était les premiers produits de l'activité des gènes. On savait que les gènes avaient des effets sur les protéines, on ne sait pas trop comment. Et là, on avait une explication. Encore fallait-il, puisque c'était un intermédiaire, comprendre comment il était traduit en protéines. Et là, nous avons fait beaucoup de recherches avec un chercheur qui est actuellement un des meilleurs chercheurs à l'Institut Weizmann en Israël, un Français d'origine qui s'appelle Michel Revel. Nous avons découvert certains des facteurs protéiques qui justement interviennent dans la traduction par les ribosomes, ce qu'on appelle les facteurs d'initiation. Ils ont fait beaucoup d'études, je ne vais pas entrer dans les détails, sur la biosynthèse des protéines à partir du RNA messager. Donc de là à étudier la régulation génétique au niveau de la formation des messagers, à partir des travaux qui avaient été faits de manière lumineuse sur le répresseur par Monod et Jacob, nous nous sommes intéressés à cet aspect-là aussi. Et de fait, j'aurais pu continuer ainsi sur cette lancée si, d'une part, André Lvoff m'avait dit « Il y a une possibilité d'ouvrir un service à l'Institut de biologie physico-chimique, qui est un petit institut qui se trouve rue Pierre-Curie. Après tout, pourquoi ne pas prendre ce poste ?» J'en ai parlé à Monod, qui n'était pas très heureux, parce que nous entendions bien,
et il me disait «
Pourquoi pars-tu ?» etc.
Oui,
on s'entend bien. Et puis, il m'a dit « Au fond, tu as raison, fais-le. » Et puis, j'ai donc pris ce service là-bas, et j'ai développé peu à peu ce qu'on peut appeler une autonomie.
Ça, le jour où vous acceptez d'être le chef de service de l'Institut de biologie physico-chimique, c'est en 1964. Un an auparavant, ou non, ça correspond pareil à la même date, à la même année, vous recevez la médaille d'or de l'Académie des sciences pontificales. Et cette Académie des sciences, j'imagine, récompense vos recherches dont vous nous parliez à l'instant sur les ARN, RNA messagers.
En fait, je ne me souviens plus exactement. Je crois que ça devait être en 64 que à la suite. J'ai appris cette nouvelle d'ailleurs, c'est très
amusant. Vous étiez aux États-Unis ?
Au fin fond de l'Oregon, au milieu des forêts américaines. Je travaillais dans un laboratoire avec deux Américains biologistes. Et on est venu, m'a envoyé un télégramme pour me dire « Vous avez reçu la médaille d'or de l'Académie pontificale. » Alors, bon, c'était un certain étonnement pour moi. Et la chose la plus amusante, c'est que j'aurais reçu le prix Nobel, ça n'aurait pas tellement surpris des Américains, parce que, en fait, le prix Nobel, eux, ils en reçoivent à peu près une demi-douzaine par an. Mais la médaille d'or du pape, là, c'était quelque chose qui les intriguait beaucoup.
C'est très curieux, vous étiez
cette nouvelle a fait un peu le tour de la région, puis des États-Unis. Ils se sont dit, mais ça veut dire quoi la médaille d'or de l'Académie pontificale? Donc j'étais entouré de questions et c'était assez amusant. Et j'ai donc reçu cette médaille, j'étais là chercher au Vatican, à l'Académie pontificale. Et chose qui m'a évidemment beaucoup ému, beaucoup frappé, elle m'a été remise par le fameux chanoine Le Maître, qui est en fait l'inventeur du Big Bang.
De la théorie du Big Bang.
Oui, et qui était un homme d'une modestie extraordinaire. J'ai fait un discours, j'étais très ému, je me suis un petit peu trompé à plusieurs reprises. Tout ça, j'étais évidemment dans un cadre, inutile de vous le dire, des plus formels, puisque j'étais en habit, mon épouse en robe longue, etc.
Donc cette médaille, en tout cas, déjà vous mettez un peu plus au jour, puisque voilà, c'est vrai que, comme vous le disiez, Monod était déjà célèbre,
oui.
Jacob aussi, oui. André Lvoff aussi, et puis vous aussi, peut-être un tout petit peu plus tard, en tout cas connu du grand public, on va dire.
Ben, Monod et Jacob étaient déjà très connus pour leurs travaux sur la découverte des gènes de régulation, c'est ainsi qu'on les nomme, c'est-à-dire avoir réfléchi au fait que tous les gènes ne sont pas, si je puis dire, égaux entre eux. Certains dominent d'autres gènes et les contrôlent dans leur activité. Et plus loin encore, d'avoir montré que ces gènes de régulation sont eux-mêmes soumis à l'effet de l'environnement. De sorte qu'il y a une sorte de cascade, si je puis dire. L'environnement agit sur les gènes de régulation, lesquels agissent sur les gènes qui font justement les fonctions essentielles de la cellule. Et ça a donc établi un lien, un des premiers liens les plus simples sans doute, entre l'environnement et l'activité génétique, dont on parle beaucoup aujourd'hui sur un tout autre plan.
Oui, dans le domaine de la bioéthique. Pour revenir à l'Institut de biologie physico-chimique, vous y restez finalement peu de temps, puisque vous y entrez en 1964, et vous repartez en 1968.
Oui.
Pourquoi partez-vous?
Eh bien, parce que là, Jacques Monod m'a dit il y a une chaire qui va s'ouvrir en biologie moléculaire.
Au Collège de France.
Tu devrais l'apprendre, oui. Non, là, je parle d'ailleurs de la Sorbonne. Je suis arrivé un peu avant mai 68 à la Sorbonne, où j'ai été nommé donc à cette chaire. Où j'ai commencé à enseigner d'une façon comme on l'enseignait à l'époque, c'est-à-dire c'est des cours assez magistraux. J'enseignais au premier cycle, puis au deuxième, plus tard au troisième cycle. Et c'était à la fois passionnant et un peu effarant, parce qu'on dans un amphi, pour quelqu'un d'encore peu, disons, enclin, disons, à donner ce genre d'enseignement magistral, ça a quelque chose d'un petit peu déroutant au départ, mais néanmoins très utile, parce que ça vous apprend à prendre un peu d'autorité vis-à-vis sur le plan pédagogique. Et puis peu à peu, comme vous savez, il y a eu un peu d'agitation en 68.
Oui.
Alors, ça n'a pas été trop grave pour moi, parce que en fait, bon, il y avait des attroupements de temps en temps, mais d'une manière générale, peut-être parce que les gens me considéraient comme relativement jeune, ils ne voulaient pas trop me chahuter. Tout de même, un jour, ils ont déboulé dans l'amphi, puis ils ont commencé à nous arroser, moi compris. Donc, je me suis dit, zut, ça commence à tourner un peu mal. Et puis, les choses ont empiré. Je me souviens de véritables combats singuliers entre ceux qu'on appelait les CRS à l'époque et les manifestants dans le quartier, c'est-à-dire rue Dauphine.
Avec les pavés qui étaient retirés de la route, en fait.
Voilà.
Oui.
Puis bon, finalement, je ne vais pas refaire l'histoire, mais là, donc, ça a été le point de départ de ce qu'on a appelé l'autonomie des universités, première manière, en tout cas. On en parle beaucoup aujourd'hui sous une autre forme. Et puis j'ai donc continué mes cours pendant quelque temps. Et j'ai dû être Ensuite, je crois avoir en 72 ou 13...
En 1972, vous revenez à l'Institut Pasteur.
Il m'a été proposé de partir au Collège de France sur la proposition de François Jacob et le fait qu'on avait besoin d'un enseignement de biochimie. Il était occupé d'ailleurs à l'époque, chose intéressante, par un homme qui justement avait été un tout petit peu à l'origine du déclenchement de mai 68, qui était un très brave homme, au demeurant le recteur Jean Roche, un biochimiste d'ailleurs remarquable, en biochimie marine notamment, et spécialisé dans la biochimie de la thyroïde. Donc, il devait prendre sa retraite et on a fait appel à moi. Donc, j'ai été nommé au collège en 73.
Et en étant parallèlement professeur à Pasteur.
Alors, oui, on pouvait à l'époque avoir les deux fonctions. Mais donc, j'ai enseigné au collège et j'avais un laboratoire à l'Institut Pasteur.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour revenir sur cette troisième partie d'émission. À tout de suite.
Marcher sur les traces de Théodore Monod, immortel de l'Académie des sciences, à la fois anthropologue, linguiste, océanographe, géologue, botaniste et philosophe, Théodore Monod a rempli sa vie de 70 années de traversée dans le désert, alignant des distances de 900 km de marche. Récit de cette vie d'aventure avec Roger Kans dans une émission Parcours en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de François Gros. Dans cette dernière partie d'émission, nous étions devant la porte du Collège de France. Vous occupez la chaire qui vous est donc allouée de 1973 jusqu'en 1996. Donc il se passe quand même pas mal de temps. Et puis, parallèlement, vous allez aussi occuper des fonctions de conseil auprès du Premier ministre. Mais peut-être revenons quelques instants sur le Collège de France. Qui vous nomme alors finalement à cette chaire?
On est élu par l'Assemblée des professeurs. C'est un système d'ailleurs assez remarquable parce que un peu plus de la moitié d'ailleurs des professeurs du Collège ont des activités qui sont tournées vers les sciences humaines et sociales. Donc l'autre moitié vers des sciences parfois très dures, très exactes, un peu pointues. Et il faut qu'il y ait un accord entre l'ensemble pour choisir les gens. Je ne dis pas ça du tout d'une manière avec quelque orgueil par le fait qu'on est élu par des gens de courants différents, mais parce que c'est là le mécanisme. Et c'est un mécanisme très curieux, c'est qu'on n'est pas présenté en tant que personne au début, mais on présente la chaire avec ce qu'elle contient, ce qu'elle implique comme développement, disons, scientifique ou culturel et intellectuel. Et c'est au rapporteur, justement, de convaincre les autres que le domaine que représenterait potentiellement la personne dont le nom figure en filigrane est un domaine important. Donc, on vote pour plusieurs types de chaires, sachant pertinemment que derrière les noms des chaires, les intitulés, se profilent des personnes définies. Et lorsque telle chaire est adoptée, ensuite, on révèle, comme si on découvrait par un voile, on découvrait le voile, le nom de la personne, et on dit, voilà, je connais quelqu'un qui pourrait très bien remplir les fonctions. C'est comme ça.
Et avec des visites aussi, des visites auprès des professeurs.
Les visites sont très importantes et passionnantes. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire de pouvoir rendre visite à 40 personnes beaucoup plus chevronnées que nous et qui peuvent vous apporter des éclairages fantastiques.
Et justement dans des domaines très différents.
Oui, je me souviens de la visite à des gens comme Raymond Aron, Claude Lévi-Strauss, qui d'ailleurs sont des personnages extraordinaires. Le premier, je peux en parler au passé parce qu'il n'est plus, mais Lévi-Strauss, fort heureusement, est encore, mais qui arrive à vous poser des questions très précises sur votre propre travail, alors qu'ils ne sont pas du tout, a priori, disons, engagés dans cette voie. Non, c'est extrêmement intéressant. Alors, bon, j'ai enseigné pendant à peu près 23 ans, jusqu'à l'âge de la retraite du collège, c'est-à-dire 71 ans, jusqu'en 96. Et puis, j'avais une équipe également qui travaillait, bien que l'équipe principale fût à Pasteur. on est obligé d'avoir un certain ancrage de recherche, parce que c'est la tradition, surtout dans la chaire de biochimie. Une des équipes travaillait sur la biochimie des neurones, et on rattachait traditionnellement à la chaire de biochimie, comme si je n'avais pas assez de responsabilités, et c'était une obligation, donc ce n'est pas moi qui l'ai demandé. La direction du laboratoire de biologie marine de Concarneau. Donc j'étais le professeur délégué responsable du laboratoire de biologie marine de Concarneau. Quand j'ai raconté ça à Jacques Monod, il a éclaté de rire en disant « Mais tu ne connais rien à la biologie marine », ce qui était tout à fait vrai. D'ailleurs, ça n'existe pas, il y a de la biologie, qu'elle soit marine ou terrestre. Bon. Bref, ça s'est pas mal passé parce qu'il y avait là-bas un garçon extrêmement actif, un breton, Yves Le Gall, qui m'a beaucoup aidé, qui en fait dirigeait le laboratoire. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors du coup, en me rendant là-bas, dans cet endroit extraordinaire, qui est le plus ancien, la plus ancienne station de biologie marine du monde, qui a été créée en 1859. Oui. Bref, je termine. Après le... Bon, vers... vous l'avez évoqué, vers 1980, donc après l'élection de François Mitterrand, que connaissait bien mon oncle. Mon oncle était avocat, ils avaient fait leurs études ensemble au barreau de Paris. J'avais déjà rencontré un peu François Mitterrand avant qu'il ne soit devenu président.
Quand il était en campagne ?
Oui. Après son élection, Pierre Mauroy, qui se trouvait être le président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur de Lille, et moi j'étais à l'époque directeur de l'Institut Pasteur de Paris, donc je rencontrais à ce titre, est venu vers moi en disant « Je souhaiterais que vous puissiez devenir mon conseiller en matière scientifique. » Donc comme c'est un homme que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais un certain respect, une certaine admiration, j'ai un peu hésité et je me trouvais à ce jour-là à côté de Jean Burger qui m'a donné une sorte de bourrade amicale et qui a dit à mon roi, il accepte. Je m'en souviendrai toujours. Alors j'ai un peu rigolé, puis j'ai dit oui, d'accord, ne sachant pas du tout ce que ça impliquait.
Mais devenir conseiller scientifique et technologique, finalement, c'était un pur hasard. Vous n'aviez pas forcément d'intérêt particulier au départ pour conseiller les hommes politiques ?
Non, mais comme, encore une fois, je voyais surtout à travers ça l'Institut Pasteur de Lille et Pierre Mauroy. Mon père était lillois, donc il y avait quelques atomes crochus. Et puis, bon, disons les choses comme elles sont, j'étais assez proche au plan, disons, sinon idéologique, c'est peut-être un bien grand mot, mais tout de même intellectuellement de François Mitterrand, que je connaissais un petit peu. Donc j'ai accepté. Et puis je suis parti à la campagne pendant les vacances, ne sachant pas du tout ce que signifiait le poste. Et on m'a rappelé Darda en disant « Mais que faites-vous ? On vous attend à Matignon. » J'ai dit « Mais comment je dois venir à Matignon ?»« Mais oui, vous devez être à Matignon de façon régulière. » Donc j'ai dit « Zut, j'aurais peut-être dû réfléchir. »
Et puis je
suis rendu à Matignon. Et puis là, bon, j'ai pris effectivement les choses avec beaucoup de sérieux.
Effectivement, chose que je n'ai pas précisée, c'est qu'on est passé du Collège de France à vos fonctions en tant que conseiller scientifique auprès, oui, du Premier ministre. Mais c'est vrai que vous deveniez quand même directeur général de l'Institut Pasteur, pour revenir un petit peu en arrière.
Oui.
Vous êtes quand même directeur. Donc vous entrez par la petite porte et vous ressortez quand même par la plus grande.
Bon, en fait, on pourrait... Un esprit plus malin pourrait dire, après tout, c'est une question d'usure. Hein. J'ai commencé, très franchement, j'avais 21 ans à l'Institut Pasteur, donc c'est vous dire que j'ai passé de très nombreuses années. Bon, le hasard a fait qu'on choisissait aussi des gens qui avaient une certaine fidélité, dirais-je, vis-à-vis de l'Institut. En outre, c'est vrai que Jacques Monod et moi, nous entendions réellement très bien. C'est un homme pour qui j'avais une énorme admiration, une énorme affection aussi, et qui me le rendait, au moins au niveau de l'affection, qui est disparu, comme on sait. C'était tout de même une perte très forte. Et qui m'avait demandé, avant de quitter ce monde, si j'étais prêt à accepter et prendre sa place. Et j'avais refusé, d'ailleurs. Je lui ai dit que je ne me sentais pas du tout. Et c'est par la suite, c'est après sa mort, que des amis à qui il s'était ouvert, en quelque sorte, de cette affaire, m'ont dit « il faut que tu acceptes ». J'ai accepté. Bon, c'est une tâche très lourde que de diriger cet institut complexe.
Et que vous avez dirigé pendant 5 ans.
Oui, c'est ça, jusqu'au moment où j'ai pris cette fonction à Matignon.
Alors, justement, revenons à Matignon. Vous conseillez pendant quelque temps Pierre Mauroy.
Oui, puis Laurent Fabius, après le départ de Pierre Mauroy. Et j'ai fait 4 ans, ce qui est beaucoup. Je m'étais engagé dès le début de mon mandat avec Fabius à ne pas faire plus d'un an. J'avais déjà fait 3 ans avec Mauroy, ce qui a été le cas. Bon, et comme chacun sait, il y a eu des moments un peu douloureux qui ont suivi, disons, mon mandat de conseiller chez Fabius. N'insistons pas trop, mais tout de même, chacun le sait, avec les problèmes du sida et l'affaire du sang contaminé. Enfin, tout ça est un peu passé maintenant, heureusement. Et là, je suis retourné à l'Institut Pasteur, où j'ai travaillé évidemment comme avant. Si ce n'est que le service que je dirigeais avait été repris à juste titre par une de mes élèves d'origine écosaise,
Margaret Buckingham,
qui est aujourd'hui membre de l'Académie des sciences, parce qu'elle a maintenant la nationalité française, qui est une personne formidable, haute en couleur, à bien des égards, remarquable scientifique. D'ailleurs, 3 de mes élèves, j'en suis très fier, sont membres de l'Académie. Margaret, Philippe Kourilski et un Israélien d'origine qui est français aussi, Moshe Yaniv.
Revenons, si vous le voulez bien, quelques instants, pour donner un petit peu en quoi consistait votre travail auprès de Pierre Mauroy, par exemple. Pour revenir sur votre tâche de conseiller, je vais reprendre une citation, si vous me permettez, et vous allez la commenter. Pierre Mauroy, qui est un homme très honnête, un politicien remarquable et un excellent maire, ne comprenait pas vraiment à quoi servait la recherche. En étudiant de près ses discours, j'avais constaté que le mot « recherche » n'y apparaissait jamais. Je lui en ai fait la remarque et il m'a donné raison. Et sur proposition de Pierre Royer, de François Jacob et de moi, il y a eu la création d'un ministère de la recherche et de la technologie. Il s'agissait de démythifier les relations entre la recherche et l'industrie, jusqu'alors très mal vues. C'est de là qu'est né le ministère de la recherche.
Alors, je me permets de rectifier légèrement, c'est que le problème du rapport Jacob-Royer-Gros, c'est quelque chose qui remonte à Giscard d'Estaing, donc c'était évidemment bien avant. Enfin, pas tellement, parce que c'était peu avant la transition Giscard-Mitterrand. Et en fait, ce rapport a connu un certain écho parce que c'était dans les débuts de l'essor des biotechnologies, disons d'inspiration génétique. C'était le début du génie génétique, en quelque sorte. Et la possibilité de sélectionner des souches bactériennes utiles de très grande performance. Donc ce rapport a été fait et... chose très intéressante pour la petite histoire, c'est que François Mitterrand l'a lu. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai déjeuné un jour avec lui et Jacques Lang dans le quartier. Il m'a dit « Dites donc, j'ai lu votre rapport, je trouve ça très intéressant, c'était une très bonne idée. Les biotechnologies, c'est quelque chose d'important. » Et c'est là il m'a dit « Seriez-vous disposé après tout à nous conseiller, à m'aider ?» Et je lui ai dit que je n'appartenais pas au Parti Socialiste. Il m'a dit que ça n'avait aucune importance. Bon, donc j'ai dit « Pourquoi pas ?»
D'accord, c'est de là qu'est né votre...
Je suis un homme qui ne sait jamais dire non. Oui.
Aujourd'hui, vous vous intéressez aussi à d'autres domaines, notamment à la biodiversité, mais au sens moderne. Et plus exactement, à la métagénomique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qu'est la métagénomique?
D'abord, la génomique, c'est l'étude, évidemment, de l'alignement des unités qui constituent le génome, c'est-à-dire des... ce qu'on appelle les bases des acides nucléiques. Pour fixer les idées, il y en a 3,5 milliards qui sont alignés dans l'ensemble des chromosomes de l'homme. Ça fait quelque chose, évidemment, quand il s'agit de les déterminer chimiquement, sans faire d'erreur. Donc le séquençage, comme on dit, est quelque chose qui a été développé grâce, évidemment, aux machines mises au point, d'ailleurs, par les physiciens. Eh bien, la génomique a permis d'établir des comparaisons entre différentes espèces vivantes en comparant justement l'organisation de leur propre génome, de leurs gènes, et en voyant combien de gènes et comment ils sont articulés. La métagénomique, c'est une branche de la génomique qui essaye d'étudier toute une population très compliquée qui se trouve dans des échantillons, de sol, des échantillons marins ou même des échantillons, provenant de la panse des ruminants ou dans des endroits extrêmement complexes.
Oui, disons difficiles.
Un nombre énorme d'espèces bactériennes, mais dont on ne connaît qu'un très petit nombre parce que il y a très peu d'espèces de microbes qu'on a réussi à cultiver, pas plus d'1% de ce monde microbien fantastique. Microbien, c'est-à-dire bactérien, mais aussi microplanctonique, picoplanctonique, etc. Et là, on s'aperçoit que grâce à la métagénomique, on peut prendre tout l'échantillon en bloc, traiter tout l'ADN de tout, mélanger, puis le découper en rondelles, le cloner, en faire la séquence et comparer les séquences avec celles qu'il y a, celles des bactéries déjà connues, et ainsi découvrir de nouvelles espèces indirectement. Donc c'est une approche qui est tout à fait fascinante parce qu'elle nous permet de découvrir une biodiversité, certes microbienne, mais tout à fait extraordinaire. Une des applications, par exemple, a été de mettre en lumière les bactéries qui sont responsables de la production de l'azote de l'air. Ou bien des bactéries qui jouent justement un rôle clé dans la transformation du plancton.
Ça, c'est votre premier cheval de bataille. Maintenant, pour terminer cette émission, vous souhaitiez quand même dire quelques mots sur les cellules souches, et notamment la recherche en matière de cellules souches. Alors ici, à l'Académie des sciences, il y a une personne qui connaît bien les cellules souches, c'est bien sûr Nicole Ledouarin, qui est, comme vous, secrétaire perpétuelle honoraire. Que souhaitiez-vous dire sur les cellules souches ?
D'abord, en profiter pour dire qu'après les bactéries, je me suis tout de même bien intéressé pendant de très longues années à la
biologie du développement,
à ce qu'on appelle la différenciation des cellules, en utilisant des modèles de culture de cellules in vitro musculaires, avec la fameuse Margaret et Philippe Kurilski d'ailleurs, et puis Moshe Yaniv, et puis également les cellules neuronales. Les cellules souches, moi-même, je ne peux pas dire que j'ai travaillé directement sur les cellules souches, mais il se trouve que lorsque j'étais d'ailleurs secrétaire perpétuel, il m'a été demandé de développer des rapports pour l'Académie sur ce thème, puisqu'étant biologiste, on s'est adressé à moi pour ce faire. Et à l'époque où Jospin était Premier ministre, il a été lui-même saisi de cette demande et il s'est tourné vers l'Académie de médecine et l'Académie des sciences. Donc j'ai fait plusieurs rapports là-dessus et il est certain que c'est un domaine extraordinairement important parce que, à la fois au plan fondamental, pour comprendre les différentes étapes de la formation d'un être vivant complet, l'homme compris à partir de cellules gamétiques, ce qui implique un nombre considérable de remaniements, à la fois génétiques, cellulaires et autres, et de remaniements même cérébraux. Et puis aussi au niveau médical, parce que on a tout de suite compris que l'on pouvait tirer parti de ces cellules pour faire une sorte de médecine de réparation, médecine dite régénérative. Alors, comme vous savez, il y a eu des débats sur l'opportunité ou non d'utiliser les cellules souches embryonnaires qui, évidemment, ont des capacités de reproduction beaucoup plus grandes et plus larges que les cellules souches des tissus adultes. Et aujourd'hui, il semble qu'il y ait une piste assez extraordinaire puisqu'on peut transformer des cellules déjà différenciées, des cellules de peau par exemple, des cellules pratiquement de n'importe quoi, en introduisant des gènes, là on retrouve la transgénèse, qui leur rendent en quelque sorte leur jeunesse, c'est-à-dire elles redeviennent non pas des cellules souches, mais des équivalents de cellules souches. Elles sont, comme on dit, pluripotentes. Elles peuvent reformer in vitro et donc in vivo tous les tissus. Alors évidemment, ce n'est pas encore gagné parce que Il faut vérifier qu'elle ne fabrique pas non plus des cancers ou d'autres petites monstruosités. Mais beaucoup de laboratoires travaillent actuellement sur cette piste-là qui, je crois, devrait déboucher dans pas trop longtemps sur des applications très concrètes. Alors, il y a déjà des applications concrètes des cellules souches adultes, bien entendu, sont très connues dans le domaine de la régénération de la moelle, etc. Oui. Mais c'est un domaine, évidemment, qui est tout à fait en avance dans le cadre de la biologie contemporaine.
Et sur laquelle vous avez un regard intéressé ?
J'ai un regard de vieux biologiste très intéressé. Oui.
Je vous remercie. François Gros, je rappelle le titre de votre ouvrage « Mémoire scientifique, un demi-siècle de biologie » paru édition Odile Jacob en 2003. Souhaitez-vous rajouter quelque chose, François Gros ?
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'émission qui m'a permis de me replonger un peu sur mon passé, tout en regardant un petit peu l'avenir, si toutefois à mon âge, on peut le faire.
Merci François Gros, et puis je l'espère à une prochaine fois pour une prochaine émission.
Merci beaucoup.